Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur IDFM Radio. Aujourd'hui, notre émission « Notre territoire a du talent » va vous emmener au cœur même de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise, où nous sommes à présent accueillis par les équipes et responsables de l'organisme pour évoquer un sujet aussi important que sensible, les contrôles, la lutte contre la fraude et la garantie du juste droit. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Madame Christelle Kissane. Bonjour Madame.
Bonjour.
Monsieur Nicolas Navarro. Donc Madame Christelle Kissane, je n'ai pas dit, vous êtes la directrice générale donc de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise. Monsieur Navarro, directeur comptable et financier.
Bonjour.
Bonjour. Monsieur Rachid Afraoui, responsable du service contrôle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et Madame Layal Nemé, responsable juridique et de la fraude. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Pour rappel, pourquoi cette émission ? Chaque année, la Caisse d'allocation familiale accompagne des milliers de familles du département à travers différentes prestations, allocations familiales, aide au logement, RSA, prime d'activité ou encore aide à la garde d'enfants. En 2025, cela représentait près de 1,7 milliard d'euros versés dans le Val d'Oise. Mais derrière ces aides essentielles, il existe aussi une mission de contrôle et de vérification afin que chacun perçoive le montant auquel il a réellement droit. Et contrairement aux idées reçues, un contrôle ne signifie pas automatiquement fraude. Il peut aussi permettre de corriger des erreurs, de régulariser des situations ou même de rétablir des droits pour certains allocataires. Et c'est tout l'enjeu de cette émission, combattre les idées reçues et répondre à un ensemble de questions essentielles afin de démontrer comment la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise tente de concilier accompagnement humain, prévention et protection des fonds publics.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux pour cet échange donc consacré à un sujet qui concerne directement des milliers de familles, on peut le dire. Alors Madame Christelle Kissane, déjà peut-être un mot pour vous présenter.
Oui, donc je suis Christelle Kissane, directrice générale de la CAF. On a à cœur effectivement d'accompagner les familles sur le département avec, comme vous l'avez dit, le versement de prestations sociales auprès de plus de 250 000 bénéficiaires, avec des versements, comme vous l'avez dit également, de plus de 1,7 milliard d'euros. Donc on est vraiment un amortisseur social, si je peux me permettre l'expression, et c'est vrai que on a à cœur de verser le juste droit, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité évoquer le sujet des contrôles, évoquer le sujet de la lutte contre la fraude, parce que ça fait partie de nos missions qui sont essentielles, et c'est aussi la garantie, la pérennité de notre système, et il est vrai que la particularité du fonctionnement de la CAF, c'est qu'on travaille encore sur un système déclaratif. Donc les allocataires nous transmettent, nous déclarent effectivement les ressources, et c'est sur cette base-là que nous calculons les droits. Alors bien sûr on s'améliore, on le verra hein, tout au long de l'émission. On a des dispositifs qui nous permettent de sécuriser de mesure mieux les choses et d'aller et de récupérer des informations davantage à la source. Mais voilà, c'est important qu'on puisse effectivement payer le juste droit à nos allocataires, à nos familles.
Voilà, donc vous faites bien de planter le décor, puisqu'on entend souvent parler de lutte contre la fraude, mais précisément beaucoup moins du juste droit, qui est une notion bien précise hein, dont vous venez de nous parler. Comment trouver l'équilibre entre accompagnement des allocataires et contrôle des dossiers ?
Alors, on a effectivement toute une série d'accompagnements dès lors qu'on traite nos dossiers avec nos gestionnaires conseils, donc qui peuvent être directement en contact avec les allocataires dès lors qu'ils traitent les dossiers et du coup les contacter justement pour se réassurer par rapport aux ressources qui sont déclarées. Et puis on a à cœur effectivement de payer rapidement parce qu'il y a des besoins importants dans le département, mais de payer juste. et dans ce cadre-là aussi, on accompagne aussi nos équipes pour renforcer, puisqu'on a une législation qui est complexe, et du coup, on accompagne nos équipes aussi en termes de formation pour s'assurer qu'il n'y ait pas également d'incompréhension dans le traitement des dossiers des allocataires. Et puis, on a effectivement une politique de contrôle, donc à la fois avant paiement, à la fois après paiement, qui nous permet effectivement de s'assurer qu'on a bien fait les choses, puisqu'on est un gestionnaire de fonds publics. Donc, et puis je le redis, ce qui nous permet aussi de justifier, de continuer à pérenniser le système, la très belle invention de notre sécurité sociale, hein, qui est fondée sur le principe de solidarité, mais aussi de responsabilité. Et c'est vrai que on attend effectivement nos allocataires, à la fois effectivement de nous déclarer les bonnes informations, et puis au plus tôt ils peuvent nous donner des évolutions dans leur vie professionnelle, dans leur situation personnelle. Ça nous évite aussi de verser à tort. Donc voilà. Donc il y a aussi et c'est là-dessus aussi qu'on va insister ce matin par rapport à cet échange, c'est que les allocataires vraiment nous disent au plus vite dès lors que leur situation change. Puisque pour nous c'est essentiel, ça nous évite effectivement de verser à tort et ensuite de devoir effectivement rembourser des sommes indues. Donc on le verra, hein, on a aussi cette attention particulière, mais c'est important effectivement que les allocataires soient, nous disent au plus vite.
Oui, soient en confiance.
C'est ça, tout à fait.
Il y a des idées reçues, hein, nous l'avons dit. Par exemple, on contrôle toujours les mêmes profils. Et vous voudriez revenir sur cette déclaration.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, des idées reçues ou effectivement,
faux, bien sûr, hein.
Complètement, sachant que on a des principes de contrôle en lien avec une politique nationale également, hein, qui permet effectivement de bien déterminer les dossiers que l'on va contrôler. Enfin, globalement, on est en capacité de contrôler l'intégralité de nos dossiers. On le fait, on verra. On peut le faire à la source, carrément à la source. Hein. On a plus de 500 000 détections et d'échanges informatiques, hein, qui nous permettent d'éviter de payer à tort. Et puis, on a aussi des outils qui nous permettent également de détecter des situations plus à risque, en lien aussi avec les échanges également qu'on peut avoir avec les partenaires. Ça c'est important, on a beaucoup développé en lien avec le comité départemental de lutte contre la fraude qui est piloté par la préfecture, où on a des échanges réguliers sur des situations et qui nous permettent effectivement d'être beaucoup plus efficace également dans nos contrôles. Donc tout le monde est susceptible d'être contrôlé dès lors qu'un versement de prestation a lieu.
Oui, voilà, vous insistez sur le travail partenarial, donc vous nous citez la préfecture du Val-d'Oise. Quels autres acteurs entrent dans ce partenariat?
Alors, on a nos collègues de l'URSSAF et de la caisse primaire, par exemple. On travaille également avec les services du parquet, on verra tout à l'heure. On travaille également avec les services des impôts, bien sûr. Et puis, là, on peut travailler également avec les services de la gendarmerie, dès lors qu'on est aussi, on peut organiser aussi des actions plus collectives, hein, puisque parfois, dès lors qu'un service a détecté une situation de fraude, eh bien, donc sollicite les autres organismes, en fait, pour avoir une vision, une analyse globale de la situation, et nous pouvons intervenir de manière beaucoup plus efficace.
Et c'est vous le maître d'œuvre de parmi toutes ces collectivités qui dites voilà, il faut aller dans telle direction, ou bien c'est chacun
prérogative. On a chacun nos orientations, mais elles sont heureusement communes, et puis elles sont pilotées par le préfet et puis le procureur de la République. Quand j'évoque le comité départemental, c'est bien ça. Donc c'est sous l'égide de l'État.
Bien sûr.
Mais du coup, effectivement, ça montre qu'on est beaucoup plus efficace à plusieurs.
C'est ça. Je crois qu'il y a France Travail également qui intervient et qui peut garantir la sécurisation des droits.
Tout à fait. Oui, oui. Et puis, il y a plein d'autres partenaires aussi que mes collègues pourront citer. Mais effectivement, ce qui est important et même pour nos publics, c'est de savoir que, effectivement, tous les partenaires sont mobilisés sur cet enjeu du juste droit d'abord. Mmh. Et puis, effectivement, en lien avec la lutte contre la fraude, mais à savoir qu'on se mobilise, qu'on a des ressources dédiées à cela, et je vais reparler de ce que je connais bien et qui concerne la CAF, où effectivement on a des équipes mobilisées sur le sujet autour du contrôle place avec des contrôleurs, on l'évoquera tout à l'heure, des équipes aussi qui contrôlent les dossiers dits sur pièce, et puis des équipes qui traitent les dossiers fraude et en lien avec le service juridique de la Caisse, et puis tous nos gestionnaires conseils aussi sont sensibilisés,
oui.
Ceux qui traitent les dossiers, de manière à pouvoir détecter aussi, mm-hmm. puisque ça nous arrive également, des signalements au moment aussi du traitement du dossier.
Madame Kissan, une autre question, le nombre de fraudes détectées baisse, mais les montants augmentent. Alors comment expliquez-vous ce delta ?
Alors, effectivement, on constate des montants financiers qui sont plus importants. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt, ça veut dire qu'on cible bien aussi, nos dossiers. Donc, en lien avec un outil qui nous permet de détecter effectivement des profils spécifiques. On le fait bien sûr dans un principe déontologique. Et dans ce cadre, il y a un comité d'éthique qui a été mis en place au sein de la Caisse nationale, qui permet de confirmer que les outils que l'on utilise sont utilisés à bon escient et qu'il n'y a pas de risque de discrimination et que c'est conforme effectivement aux droits des allocataires. Et donc ça veut dire qu'on est de plus en plus efficace et c'est plutôt de bon ton. Et puis après, en fonction du nombre, ça dépend des thématiques aussi qu'on peut aborder, ça dépend des années, en fait il n'y a pas de règles aussi, mais en tout cas ce qu'on souhaite, c'est davantage être efficace. Donc et puis également à se redire, mais on y reviendra, c'est que dès lors que les contrôleurs aussi interviennent à domicile sur des contrôles, certes ils peuvent détecter des situations anormales et donc des indus, mais ils peuvent également détecter des droits qui ne sont pas ouverts.
Oui.
Et donc ça, c'est aussi un élément sur quoi qui est très important. Et donc on est amené aussi à faire des rappels de droits en lien avec notre politique de contrôle. Donc voilà, on est dans une démarche vraiment d'accompagnement global, mais pour le bon droit.
L'affinement dont vous nous parlez, j'imagine qu'il est dû aux nouveaux outils numériques et puis au croisement de données qui vous permettent d'avoir peut-être changé votre manière de travailler.
Tout à fait. Alors, c'est un outil que l'on utilise depuis plusieurs années, qu'on appelle un data mining, en fait, qui permet de sélectionner donc des dossiers dits à risque en lien avec des historiques. Mais ce qui est important de bien souligner, c'est que c'est fait dans un principe déontologique, c'est pas fait n'importe comment, et ça, on y tient évidemment, et du coup ça nous garantit effectivement d'avoir aussi un retour sur investissement par rapport à tout ce que l'on lance comme contrôle.
Madame Kissan, encore une question et puis après on fait une pause. Quels sont les principaux défis selon vous pour les années à venir?
Alors, les défis en lien avec le sujet, c'est notre capacité à avoir davantage de ressources que l'on va récupérer directement de la part de nos partenaires, donc qui nous sécurisent au maximum sur l'ouverture des droits. C'est ce qui a été mis en place depuis le 1er mars 2025, qui nous a permis en fait de récupérer pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité, donc les ressources directement via les employeurs, via les autres organismes de sécurité sociale. Et du coup, les allocataires se sont retrouvés avec des, comme pour les impôts, avec des télédéclarations pré-remplies. Donc ça, c'est un gage aussi de limitation des erreurs, de sécurisation à la source, et donc qui va nous permettre effectivement d'investir aussi notre démarche de contrôle, peut-être sur des nouveaux enjeux en lien avec des réseaux, puisque malheureusement c'est ce qu'on peut rencontrer, des réseaux d'escroquerie, où du coup on va effectivement être beaucoup plus sur des contrôles sur des risques plus collectifs. Donc, mais effectivement, c'est demain, notre capacité va être encore plus importante et on va être encore plus efficace.
Plus efficace, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci infiniment. Je propose qu'on marque une pause et puis on se retrouve juste après.
Un peu de moi, juste là, comme si j'avais attendu ça toute ma vie, sans le dire, sans jamais oser rêver de ce qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je suis là et je ne veux plus jamais quitter cet endroit. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir, un peu de nous. Et qu'on me laisse tout essayer, tant que dans le miroir je me reconnais, j'en ferai des erreurs et des déçus, ça je le sais. On voulait pas d'être moi, je cherche encore à savoir ce qui me va, ce qui me fâche. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir, un peu de nous. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir, un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir, un peu de nous. Même quand je doute, un peu la vie que j'ai toujours voulu avoir.
IDFM Radio 98 FM.
C'est toujours l'émission Notre territoire a du talent sur IDFM Radio et nous sommes en ce moment dans les locaux de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise en présence de Madame Christelle Kissane, Monsieur Nicolas Navarro, Monsieur Rachid Afraoui et Madame Layal Ennemé pour lutter contre les idées reçues qui circulent autour de la fraude. Monsieur Navarro, donc vous êtes le directeur comptable et financier de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise. Donc vous êtes un spécialiste des chiffres, on peut le dire. Quand on parle de 10 millions, presque 200 000 d'euros de fraude détectée, que représente réellement ce chiffre ?
Alors, ce chiffre représente l'écart entre ce qui aurait dû être justement payé en termes de prestations à certains allocataires et ce qui a été payé, mais sur la base d'une manœuvre frauduleuse par l'allocataire. Et donc, ça représente ce qui a été détecté par l'organisme en matière de fraude en 2025.
Et ce montant représente moins de 1% des prestations versées. Pourquoi est-il important de rapporter cette rappeler cette proportion?
Ce qui est important déjà, c'est de repartir du principe du contrôle. On ne cherche pas à contrôler pour détecter des fraudes. On cherche à contrôler pour rétablir le juste droit. C'est ce que disait Christelle Kissan précédemment. Et c'est à l'occasion de ces contrôles qu'on peut être amené, à partir de critères bien établis, à détecter des fraudes.
Alors, toujours pour continuer sur les chiffres, l'impact financier global du contrôle des données en 30 dépasse 23 millions d'euros. Que représente exactement cet indicateur ?
Alors là aussi, c'est donc au global, sur la base de tous les contrôles qu'on a pu réaliser en 2025, c'est l'écart entre ce qui aurait dû être justement payé et ce qui a été réellement payé aux allocataires. Dans cet impact financier, il y a des sommes qui ont été trop perçues par les allocataires, mais il y a aussi des sommes qui ont été moins perçues et donc on rétablit les allocataires dans leurs droits.
Voilà, on est sur un chiffre donc de 2,7 millions reversés aux allocataires, ce qui signifie que ces contrôles permettent de corriger, ce que vous venez de nous dire, les erreurs en faveur des familles.
Absolument. Oui. L'idée, c'est vraiment la protection de notre modèle. Okay. Et la protection de notre modèle, elle repose sur le juste droit. Et c'est aussi le lien de confiance qu'on crée avec nos allocataires. Et la confiance n'exclut pas le contrôle.
Bien sûr.
Et comme on est sur un modèle déclaratif, le corollaire de ce modèle déclaratif, c'est de pouvoir contrôler ce qu'on appelle les données entrantes, c'est-à-dire les déclarations réalisées par nos allocataires.
C'est ça. Et peut-être c'est tout le sens du message que vous voulez faire passer à travers ces interviews. Rappeler aux allocataires qu'un contrôle ne signifie pas forcément fraude.
Absolument.
J'ai dit un petit peu en préambule.
Absolument. Et puis il faut remettre aussi en perspective donc tous ces chiffres.
Hein. Oui.
C'est-à-dire que quand on parle de 23 millions d'incidences financières dans les contrôles, il faut le remettre en perspective par rapport au fait qu'on a versé en 2025 1,7 milliard de prestations.
Absolument.
Et donc ces 23 millions correspondent entre 1 et 2 % de l'ensemble des prestations versées en 2025.
On revient un petit peu là-dessus, mais je pense que c'est pas inutile de faire des vraies explications de texte. La différence entre une erreur, un trop perçu et une fraude.
Alors, une erreur, ça peut être une erreur dans une déclaration. Et donc, la loi ESSOC prévoit le droit à l'erreur, et donc dans ce cas-là, on rétablit la situation de l'allocataire dans son juste droit. Un trop perçu, c'est dans le cadre d'une situation, alors qui peut être une erreur, qui peut être, mais qui peut être aussi une manœuvre frauduleuse, le fait d'avoir justement perçu des prestations au-delà de celles auxquelles on avait le droit. Et puis la fraude, elle répond à des critères bien précis, avec un critère de légalité.
Oui.
Donc il faut un texte qui prévoit la fraude. Un critère de matérialité, donc avec le fait d'avoir réalisé effectivement une manœuvre frauduleuse. Et puis un critère d'intentionnalité.
Peut-être même une répétition.
Voilà, qui se matérialise principalement par la répétition des manœuvres frauduleuses.
Lorsque nous avons préparé cette émission, j'avais retenu des chiffres importants. Il me semble que vous aviez parlé de 18 000 contrôles,
voilà,
et 700 régularisations. dans, en gros, j'avais en tête ces chiffres.
On a réalisé plus de 18 000 contrôles.
Oui.
Là, je parle de contrôle sur pièce et de contrôle sur place. Dans les contrôles sur pièce, on a différents types de contrôles. On a des contrôles qui sont réalisés à partir du moment où on trouve une incohérence entre les données détenues par les services des impôts et les données que nous avons dans nos bases. C'est des contrôles de ressources annuelles. On a des contrôles également qui visent à fiabiliser les prestations qui sont payées trimestriellement et qui sont réalisées à partir d'incohérences dans les déclarations des allocataires. Je prends un exemple. Un allocataire déclare être dans une situation de chômage, mais il ne déclare pas d'indemnité au chômage.
Oui. Donc, une incohérence.
Et donc, à ce moment-là, on retourne vers l'allocataire. On peut être amené à retourner vers l'allocataire pour avoir l'intégralité de ses ressources. Et puis, on en a parlé, on a le modèle data mining qui, aujourd'hui, vise plutôt à identifier des situations pour lesquelles on pourrait avoir un trop perçu de plus de 600 euros sur une période de 6 mois. Donc c'est un modèle statistique et on en a parlé tout à l'heure, duquel on a écarté toute possibilité de discrimination liée à au genre, à la nationalité, à l'adresse, et y compris à des comportements passés des allocataires.
D'accord.
Donc ça, c'est important. Ouais. C'est important aussi de le rappeler.
Oui, ce que j'ai retenu quand on avait préparé l'émission, c'est que il y a beaucoup de bienveillance finalement dans votre attitude de chacun.
Ben, ça fait partie de la relation de confiance qu'on cherche à avoir avec nos allocataires. Et puis donc, j'évoquais les contrôles sur pièce. Et puis, il y a aussi les contrôles sur place, là aussi, qui peuvent être réalisés à partir du modèle statistique, data mining, et au cours duquel, mais on y reviendra tout à l'heure, là aussi, le contrôleur, lorsqu'il se rend chez l'allocataire, peut justement l'orienter aussi pour qu'il puisse, lorsqu'il détecte que, par exemple, il ne perçoit pas toutes les prestations auxquelles il peut prétendre.
Si je résume bien ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que les contrôles débouchent plus souvent sur des régularisations que sur des sanctions.
Oui, absolument. Oui, en proportion, on a plus de régularisations que de sanctions issues d'une fraude identifiée.
Quels sont les changements de situation les plus fréquemment à l'origine d'erreurs ? Si vous avez des statistiques ou un schéma ?
Alors, les changements de situation les plus fréquemment, c'est surtout les situations professionnelles.
Tout à fait.
Surtout les situations professionnelles, et notamment aujourd'hui avec des allocataires qui peuvent avoir des parcours beaucoup moins linéaires que ce qu'on pouvait connaître par le passé, avec des situations d'activité qui se succèdent avec des situations d'inactivité. Et donc, c'est toute la difficulté de ces situations, y compris pour les allocataires, c'est de pouvoir justement déclarer rapidement les changements de situation.
Bien sûr.
C'est vraiment tout l'enjeu. De la déclaration pour éviter justement les trop perçus.
Toute suspicion. Peut-être que dans les idées reçues, il y a aussi l'idée que les contrôles sont systématiquement déclenchés après un signalement. Vrai, faux?
Alors, on peut avoir des contrôles déclenchés à partir de signalements, mais ils n'en constituent pas du tout la majorité. C'est même plutôt une minorité de contrôles qui sont déclenchés à partir de signalements.
Et c'est là peut-être où l'outil dont vous nous parlez intervient dans la prévention des fraudes.
L'outil,
le data mining dont vous parliez, non, c'est
alors,
pas...
Alors, le data mining, il sert vraiment à identifier des situations à risque.
Oui,
à risque,
d'accord.
Et pour lesquelles on peut avoir justement une situation à régulariser. Et après, c'est dans le cadre du contrôle qui est réalisé qu'on peut identifier une situation de fraude. Mais à la base, c'est identifier une situation à risque, et dans le cadre du contrôle qui est réalisé, on peut être amené à identifier une suspicion de fraude, et ensuite on sera amené à déterminer s'il s'agit d'une fraude ou non.
Ce qu'il est important de rappeler aussi, il me semble, c'est que les contrôles protègent vraiment l'argent public et l'équité entre allocataires. Je crois qu'on est là aussi pour le dire.
Oui, oui, c'est très important. Hein. C'est ce que je disais au début de mon propos.
Oui.
C'est la politique de contrôle. C'est vraiment ce qui permet de garantir aussi notre modèle social. Alors, le contrôle, on le fait après versement des prestations, mais on en a parlé aussi tout à l'heure avec le paiement à la source et la solidarité à la source et le fait de fiabiliser les données en amont du paiement des prestations et notamment les données de salaire et de revenus de remplacement pour les prestations de RSA et de prime d'activité.
Merci Monsieur Navarro. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre?
Non.
On a fait.
Mais
on a
vous me direz si jamais rien.
Voici, m'en revient une tout à l'heure. Merci infiniment. On marque une nouvelle pause et puis on se retrouve tout de suite après.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Les Mistral gagnants, les Mistral gagnants.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours notre émission, notre territoire a du talent, en direct de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise, où je suis en compagnie de Madame Christelle Kissane, directrice générale, Monsieur Nicolas Navarro, directeur comptable et financier, Monsieur Rachid Afraoui, responsable du service contrôle, et Madame Layal Enneme, responsable juridique et de la fraude. Donc, Monsieur Afraoui, vous êtes le responsable du contrôle. Vous êtes un ancien contrôleur, d'ailleurs. J'ai
tout
pu
à fait
voir. Comment concrètement débute un contrôle de la caisse d'allocation familiale?
Alors, la CAF, elle peut s'appuyer sur des incohérences détectées lors du traitement du dossier ou à la suite de signalements d'un partenaire, d'un tiers ou encore d'un contrôle aléatoire. Donc, tout à l'heure, on a parlé de mots qui sont très importants, notamment l'équité, notamment l'accès aux droits. Donc, en fait, pour un petit peu revenir sur ces fameuses idées reçues, la CAF ne contrôle pas au hasard, ne contrôle pas qui elle veut. La CAF respecte un protocole de contrôle national, donc qui est Herman de la Caisse nationale. Et l'idée, justement, c'est une idée d'équité de traitement. Chaque allocataire, qu'il habite Marseille, Paris ou le 95, le Val d'Oise, est contrôlé de la même manière, selon des critères qui sont définis. D'accord ? Donc, l'idée, ça va être de balayer un petit peu toutes les situations concernant l'allocataire, donc ça peut être la situation familiale, l'adresse, la résidence, la situation des enfants, les ressources, ainsi de suite. Donc on va balayer vraiment toutes ces thématiques-là pour vérifier si l'allocataire a bien fait toutes ses déclarations en temps et en heure. Encore une fois, souvent c'est des erreurs liées à une oubli ou dans le temps qui fait que ça génère des erreurs par la suite. Donc l'idée est à ce niveau-là. Et encore une fois, parce qu'on a parlé d'accès aux droits, parfois, ça arrive même fréquemment, on est là aussi pour régulariser un droit que n'a pas perçu l'allocataire. Donc en fait, l'idée, ça va être vraiment ça, ça va être vraiment de balayer toute la situation en présence de l'allocataire afin d'être sûr de payer le bon droit, le juste droit. Donc l'idée essentielle, c'est vraiment cette idée de juste droit.
Vous faites une différence entre un contrôle sur pièce et un contrôle sur place ?
Tout à fait, c'est différent. Donc il existe, comme vous l'avez dit à juste titre, différents contrôles. Donc il y a dans un premier temps tout ce qui est échange automatisé avec nos partenaires dont on a parlé tout à l'heure, l'administration fiscale, l'URSSAF, le France Travail, ainsi de suite. Il existe des contrôles sur pièces. Donc les contrôles sur pièces, ça va être justement suite à nos croisements de fichiers, on s'est rendu compte que l'allocataire n'a pas déclaré soit une reprise d'activité, soit qu'il est par exemple au chômage indemnisé. Là, à ce moment-là, le contrôle sur pièces, ça va être un document qui va être envoyé à l'allocataire pour lui demander des explications et pour qu'il puisse fournir la réponse à nos questions. Donc c'est pour sécuriser la situation. Et le troisième cas, c'est le contrôle sur place, où là, effectivement, nous avons à la cave du Val d'Oise une équipe de 16 contrôleurs qui ont des dossiers en amont. Donc ils vont se présenter au domicile de l'allocataire, bien entendu en le prévenant, en lui envoyant une convocation une quinzaine de jours à l'avance pour que l'allocataire puisse se préparer. Et là, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, on va vraiment balayer toute la situation de l'allocataire afin de sécuriser au mieux les droits de l'allocataire.
C'est ça, donc c'est la visite à domicile, elle se prépare vraiment en amont.
Tout à fait.
Vous ne débarquez pas.
Non, on ne débarque pas du jour au lendemain. Effectivement, on envoie vraiment un avis de passage, on prévient l'allocataire. L'allocataire peut être amené à nous contacter pour dire ce jour-là, il a un empêchement. À ce moment-là, on reprogramme. Mmh. Voilà, tout ça, c'est vraiment la gestion du contrôleur assermenté. Donc, un contrôleur est assermenté, il a prêté serment. Et en fait, on a une équipe vraiment de 16 contrôleurs qui sont expérimentés, qui ont fait une formation spécifique pour cette activité.
Très bien. Madame Kissane, il me semble que tout à l'heure, vous vouliez ajouter quelque chose et on n'a pas eu le temps de l'évoquer.
Oui, merci. C'est simplement quand on évoquait les rappels, effectivement, qu'on est amené en lien avec les contrôles sur place à constater, ne sont pas forcément des erreurs de notre part ou des erreurs de la locataire. C'est que parfois, certains ne connaissent pas, qui peuvent prétendre à certaines prestations en fait, et du coup n'en font pas la demande. Et comme on l'a vu depuis le démarrage de cet échange, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'analyse du droit et de droit ouvert.
Bien sûr.
Sur le principe effectivement qui réside la gestion des prestations sociales, jusqu'alors en tout cas. Et voilà, moi je voulais insister pour dire que si on fait des rappels, c'est pas parce qu'on a fait des erreurs aussi dans les dossiers, c'est aussi que les allocataires ne connaissent pas forcément tous leurs droits et ne font pas leurs demandes. Et pour cela, on a aussi des actions particulières que l'on réalise au niveau de la CAF avec des équipes de conseillers d'accès aux droits qui travaillent avec des partenaires. Et là, on participe à des forums en lien avec les partenaires où on va même dans les pieds d'immeubles aussi.
Comme des réunions de quartier.
C'est ça. On essaie d'être au plus près des besoins des familles, des allocataires pour et puis dès lors, par exemple, qu'on ouvre une nouvelle prestation, c'est important. Par exemple, la prime d'activité. On sait que la prime d'activité, elle n'est pas forcément sollicitée par toutes les personnes qui pouvaient y avoir droit. Donc on peut être amené aussi à travailler avec des réseaux d'entreprises aussi pour faire connaître aux employeurs et du coup favoriser cet accès au droit.
Très bien, merci Madame Kissane. Je rappelle que le but de cette émission, c'est de lutter contre les idées reçues et dire peut-être que justement le métier de contrôleur, on imagine un métier uniquement répressif et que ce n'est pas la réalité du terrain, Monsieur Afraoui.
C'est bien ça. Donc, il est important de préciser qu'en matière de contrôle, tout n'est pas fraude. Chaque contrôle, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est une discussion avec la locataire. On lui pose des questions pour vérifier sa situation. Chaque contrôle, il est formalisé par un rapport d'enquête. Donc, ce rapport d'enquête, encore une fois, ce rapport sont spécifiés des données qui sont vérifiées. Donc, en amont, pour qu'il y ait une régularisation du dossier. Donc, on peut générer, certes, un indu, donc un trop perçu à la locataire, ou encore, comme le disait Madame Kissane, ça peut être un rappel par rapport à un droit qui est non versé à la locataire. Donc, ainsi, vraiment, c'est là qu'on parle de principe de juste droit en cas de suspicion de fraude.
Une de vos contrôleuses avait témoigné en disant qu'il y avait un vrai rôle d'écoute et d'orientation. C'est une dimension importante du métier ?
C'est une dimension qui est très importante. Tout à l'heure, Monsieur Navarro vous a parlé d'éléments qui sont assez précis. Donc, en fait, le contrôleur, lui, quand il va rédiger son rapport d'enquête, s'il estime, en fonction de toutes ses investigations, en fonction des données qu'il a pu récupérer, qu'il y a une suspicion de fraude, en fait, la suspicion de fraude, elle sous-entend qu'il y a plusieurs éléments. Donc, déjà, il faut qu'il y ait le cadre. Ensuite, il faut qu'il y ait un élément matériel. Donc, qu'est-ce que c'est comme élément ? Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que voilà, il y a vraiment une discussion à avoir à la locataire, et c'est ce fameux élément intentionnel qui est important. Donc, pour savoir si c'est intentionnel ou pas, bah, il va falloir poser des questions à la locataire. Il faut qu'il y ait une discussion. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est volontaire ? Alors, bien entendu, le contrôleur est un spécialiste. Il va vraiment faire la distinction entre l'erreur de déclaration de la personne qui va volontairement mettre en place des manœuvres frauduleuses à répétition, et là effectivement c'est pas la même chose. Donc la dimension échange avec la locataire, elle est essentielle.
Et que se passe-t-il lorsque un allocataire refuse un contrôle ?
Alors, il existe une procédure spécifique, donc c'est une procédure qui est nationale. Donc, l'allocataire peut être absent à un rendez-vous, il peut se désister la première fois. Par contre, au bout de deux contrôles, deux convocations ou deux avis de passage au domicile de l'allocataire, l'allocataire est avisé. Donc, il a accès à une charte de contrôle, donc sur laquelle tout est précisé, les droits et les devoirs de chaque allocataire. Mais effectivement, au bout de deux contrôles, on laisse un certain délai, on envoie un document à la locataire pour l'aviser que à ce moment-là, les prestations seront suspendues s'il refuse le contrôle.
Ah oui, voilà. Bien sûr.
Donc c'est la législation.
Donc un refus peut entraîner automatiquement une sanction ?
Une suspension du dossier et une régularisation. Donc, si le contrôleur n'a pas pu rencontrer la locataire, ça l'empêche pas de continuer ses investigations, malheureusement sans avoir rencontré la locataire. Donc, il y aura quand même une régularisation du dossier. Donc, on ne peut pas vraiment parler de sanction, on va plutôt parler de suspension. Oui, tout dépend
d'avertissement.
Tout dépend de ce que derrière le contrôleur va trouver lors de ses investigations.
Est-ce qu'il peut y avoir des situations tendues ou conflictuelles sur le terrain ?
Écoutez, ça peut toujours arriver, mais encore une fois, l'idée, on a parlé d'échange avec la locataire, l'idée c'est vraiment d'échanger avec la locataire, lui expliquer que voilà, la CAF c'est un système qui est déclaratif, on vous laisse faire vos déclarations vous-même via votre compte ou sur caf.fr ou en allant directement dans les locaux de la CAF pour les personnes qui ne sont pas très dématérialisées, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un échange, d'expliquer à la locataire qu'il faut déclarer ces changements de situation en temps et en heure, donc que ce soit la situation familiale, la situation professionnelle ou les ressources, c'est extrêmement important. C'est la garantie du système.
Est-ce que vous avez des exemples de situations qui vous auraient marqué particulièrement ?
À quel niveau
Lors d'un contrôle ou...
Écoutez, il y a effectivement chaque contrôleur a rencontré au cours de sa carrière différentes particularités, différentes situations. Parfois, ça va être des personnes qui... en fait, un exemple concret, il y a certaines personnes, malheureusement, qui ont la barrière de la langue.
Oui.
Donc, ça m'est arrivé, moi, dans mon activité antérieure, d'arriver chez la locataire. Et en fait, la locataire m'attendait avec l'enveloppe qui était encore fermée. Il n'a même pas encore ouvert l'enveloppe. Mais en fait, quand on a commencé à échanger avec, avec la locataire, en fait, la personne ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Donc, voilà, il y a aussi cette dimension. Le fait d'aller aussi chez la locataire, je trouve que c'est vraiment très important. Ça permet parfois, encore une fois, on se répète, mais de vraiment...
Oui, un vrai regard
voilà,
humain.
Un vrai regard humain, d'accès au droit. Après, bien entendu, il y a aussi derrière des fois des situations qui peuvent être un peu plus compliquées, où là, on va vraiment aller vers de la fausse déclaration, des manœuvres frauduleuses,
oui,
des escroqueries. Mais voilà, il y a quand même ce... En fait, il y a toujours des situations qui sont variées.
Ce qui veut dire que le profil ou les compétences des contrôleurs est quand même défini.
C'est défini, c'est essentiel. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une formation. Donc c'est une formation avec un diplôme à la clé qui dure plusieurs mois, qui dure sur à peu près 6 à 7 mois. Il y a vraiment effectivement... plusieurs dimensions, donc il y a la dimension humaine certes, il y a l'équité de traitement, il y a le respect des procédures, donc c'est essentiel. C'est pour ça qu'on parle vraiment de professionnels de l'activité.
Merci beaucoup Monsieur Afraoui pour toutes ces précisions. Madame Kissane.
Oui, j'avais envie de rebondir aussi sur des situations que peuvent rencontrer les contrôleurs à domicile, et c'est aussi l'intérêt de se rendre sur place. C'est aussi de pouvoir, alors même si c'est pas leur mission première, mais de détecter aussi quand des logements ne sont pas décents.
Oui.
Et de pouvoir faire remonter, hein, puisque on a aussi une démarche de soutien. Alors on verse l'allocation logement, mais on doit la verser pour de bonnes raisons et pour que la locataire puisse vivre dans son logement dignement. Et dans ce cadre-là, c'est aussi le rôle de détection des contrôleurs, de faire remonter donc des logements qui paraissent non décents. Et nous derrière, on engage aussi d'autres actions vis-à-vis du propriétaire. Donc c'est aussi le rôle de la CAF qui est pas forcément connu. Et puis c'est aussi la détection de détresse, de situations de détresse aussi de nos allocataires. Et donc là, ils font le lien également avec nos travailleurs sociaux, avec les équipes aussi du conseil départemental également, pour pouvoir mettre en place un accompagnement
un
spécifique
signalement, en fait.
Ou un signalement par rapport, par exemple, à un risque d'enfant en danger ou malheureusement hein, des situations de ce type. Voilà, c'est aussi ça le rôle de nos contrôleurs.
Très bien, merci Madame Kissane pour cette précision. Avant d'aborder le domaine juridique, on marque une nouvelle pause et puis on reprend avec Madame Layal Ennemé.
On ne choisit ni son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Net les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo, étant treillis de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau, fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tous deux la même balle et tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a l'État profond et l'État à côté. L'État pas un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'État, les RMistes, l'État qu'a t'a fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droite, avec un air patibulaire.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Dernière ligne droite de cette émission, notre territoire a du talent au cœur de la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise, toujours en compagnie de Madame Christelle Kissane, directrice générale, Monsieur Nicolas Navarro, directeur comptable et financier, Monsieur Rachid Afraoui, responsable du service contrôle, et Madame Layal Nneme, responsable juridique et de la fraude. Donc, focus sur vous, Madame Nneme. Vous insistez sur un point essentiel, tout n'est pas fraude. Pourquoi est-il important de le rappeler ?
Juste pour se remettre un petit peu dans le contexte, donc par rapport à ce que disaient mes collègues, les contrôles, donc suite à un contrôle, il y a toujours un rapport d'enquête qui est rédigé, qui arrive donc au sein du service juridique, et le service juridique est là donc pour régulariser les droits et garantir, donc comme on l'a déjà répété, garantir le paiement du juste droit. Tous les contrôles ne mènent pas à une suspicion de fraude, comme on l'a dit au départ. Dès qu'il y a une suspicion de fraude, donc en fait le dossier est régularisé et préparé pour un passage en commission. Donc la qualification de la fraude se fait en collégialité, en commission, avec des représentants donc de différents services de la CAF, avec également un représentant du conseil départemental. On travaille beaucoup donc sur cette thématique avec le conseil départemental par rapport à la suspicion de fraude au niveau du RSA. Oui. Les dossiers sont donc instruits, préparés pour un passage en commission. On regarde, comme on l'a dit au départ, les trois éléments, les trois critères pour qualifier la fraude. L'élément légal, l'élément matériel, et on s'attarde beaucoup sur l'élément intentionnel. C'est l'élément le plus discuté en commission pour s'assurer que l'allocataire avait bien toutes les informations pour être au point de sa situation, des changements de situation, qu'il avait bien tout en clé et en main pour déclarer sa situation et qu'il ne l'a pas fait. Donc c'est l'élément intentionnel qui va vraiment qui va être le plus regardé pour qualifier la fraude.
Oui, c'est pour ça, fraude qualifiée.
Voilà, en fait, exactement. C'est pour ça que en fait la qualification de fraude se fait vraiment. C'est pas une seule personne. C'est pas le référent fraude qui va vraiment qualifier le dossier de fraude ou pas. On le fait en collégialité. On s'attarde beaucoup sur l'élément intentionnel. Oui. Et tout se fait en toute transparence avec l'allocataire. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure. À la fin d'un contrôle, il y a toujours un contradictoire qui est envoyé à l'allocataire. L'allocataire peut répondre, peut présenter ses observations. Pareil, quand on notifie une suspicion de fraude, l'allocataire a également la possibilité de présenter des observations. Donc à chaque étape du process de la suspicion de fraude jusqu'à la qualification, jusqu'à l'application d'une sanction, l'allocataire a la possibilité de nous présenter ses observations et de faire des recours en interne.
Très bien.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que tous les contrôles ne mènent pas à une suspicion de fraude. Mais la suspicion de fraude, dès qu'on passe à la qualification de fraude, par contre, là, il y a une sanction en bout de chaîne.
Alors, en 2025, c'est les chiffres dont je parlais tout à l'heure, il y a eu 737 pénalités prononcées, dont 73 dépôts de plaintes.
Oui.
Et comment décidez-vous du niveau de sanction ?
Alors, on a un barème national d'application des sanctions selon, en fait, le préjudice. Donc, selon l'indu qui va être détecté sur le dossier et qui va d'abord être en suspicion de fraude. Et comme je l'ai dit, après, si suite à un passage en commission, la fraude est qualifiée, donc on va passer de la suspicion de fraude à la fraude qualifiée. Et à ce moment-là, il y a bien sûr toute la procédure avec toutes les notifications qu'on envoie à l'allocataire. Et la sanction sera appliquée en fonction du barème national et en fonction de l'importance et du montant du préjudice CAF. Ça veut dire le total des indus qualifiés de fraude qu'on va notifier à l'allocataire. Et sur les dossiers, comme vous l'aviez dit, donc sur les 880 dossiers qualifiés de fraude en 2025, il y a eu 737 pénalités de prononcées et 73 dépôts de plainte. Alors, c'est l'importance, comme je vous l'ai dit, c'est l'importance du préjudice financier qui va en fait différencier la sanction applicable. Sur les 73 dossiers dépôts de plainte, on était sur un préjudice financier supérieur à 34 000 euros.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Et c'est là où je trouve qu'il faut peut-être aussi encore insister sur les idées reçues, puisque sur 18 000 contrôles que vous avez effectués, il n'y a, alors c'est relatif, mais il n'y a que 737 pénalités de prononcer.
Oui, donc en fait sur les 18 000 contrôles réalisés en 2025, on a qualifié 880 dossiers en fraude, 737 pénalités, 73 dépôts de plainte. Donc oui, il faut relativiser par rapport au nombre de contrôles pour revenir sur le fait de ce qu'on a dit depuis le départ, tous les contrôles ne sont pas faits dans l'objectif d'arriver à qualifier la fraude. Donc on est plus sur de la régularisation, sur des rappels de droits, sur des ouvertures de droits parfois. Donc voilà, oui, il faut faire le comparer ces chiffres au nombre total de contrôles réalisés dans l'année.
Oui, et puis il existe probablement des possibilités de recours pour les allocataires, oui. Donc qui viennent peut-être aussi diminuer ce chiffre de pénalité.
Oui, effectivement. Donc comme je l'ai dit, il y a la procédure de contradictoire qui se fait à la fin de l'enquête et du contrôle. Ensuite, dès qu'on notifie une suspicion de fraude, ils ont la possibilité de présenter leurs observations. Ils peuvent à tout moment saisir la commission de recours amiable en contestation de la suspicion de fraude ou des indus qu'on a détectés à leur encontre. Et par la suite, une fois que la sanction, qu'on a notifié la sanction finale, donc la pénalité, la majoration de 10% sur les indus frauduleux, ils ont la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal. Ils ont un délai de 2 mois.
Et dans ce cas-là, la personne peut être accompagnée lors d'un contrôle ou d'une procédure par un avocat ou un conseiller
Oui, alors pour le recours devant le tribunal, oui, la locataire a la possibilité soit de se présenter seule. Voilà. Et puis nous, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est en toute transparence avec la locataire. En amont de l'audience, on envoie au moins 15 jours à l'avance nos écritures, donc ce que la caisse reproche à la locataire. Il a la possibilité d'y répondre à l'écrit, en amont, ou bien directement en débattre avec nous en audience à l'oral, soit alors seul, soit assisté ou représenté d'un avocat. Oui.
Tout à l'heure, nous parlions de parmi vos... Enfin, ce qui vous accompagne dans cette mission, il y a le parquet.
Oui.
Mais c'est en cas de plainte pénale.
Oui.
Oui, c'est ça.
Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, il y a eu 73 dépôts de plainte sur l'année 2025. Alors, la plainte, c'est à partir d'un montant de 34 000 euros de préjudice financier CAF. Et dans ce cadre-là, s'il y a une enquête de police qui est ouverte, s'il y a une instruction, par la suite, on est convoqué à une audience correctionnelle.
Oui.
La locataire et la CAF.
Oui, je crois que là, la sanction, elle est quand même sévère.
Alors, le texte prévoit 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende en cas de fraude qualifiée avec, une fois que ça arrive au correctionnel, les textes prévoient quand même des sanctions. Et il y a eu, on a eu déjà des dossiers qualifiés de fraude qui sont passés devant le tribunal correctionnel et les allocataires ont eu des condamnations pénales avec donc des amendes à régler en plus de l'indu qui doivent nous rembourser.
Et c'est vous-même qui percevez, enfin qui envoyez ces qui récupérez cet argent ou vous passez par le fisc, comment ça se passe?
Alors l'amende civile, quand ils sont condamnés à une amende civile, c'est plus le trésor public qui s'occupe du recouvrement de l'amende civile. Le préjudice CAF, c'est à nous de faire le recouvrement en interne.
Qu'il recouvre.
Voilà.
Merci infiniment. Je crois qu'on a bien fait le tour, en tout cas, sauf si, pareil, si j'ai une question que je ne vous ai pas posée, madame, à laquelle...
Non, je crois qu'on a fait le tour. Après, voilà, on a bien insisté sur la garantie du juste droit, et ça, au service juridique, bien sûr, on y tient beaucoup. On est là pour ça, pour le cadre légal. Il y a pas mal de choses qu'on fait aussi au niveau de la prévention des indus. Voilà, donc qui dit prévention des indus dit que, voilà, on invite la locataire à déclarer au plus vite sa situation, ses changements de situation, pour éviter en fait, pour éviter qu'on arrive parfois à un contrôle, à une suspicion de fraude ou à une fraude qualifiée, à une sanction à la fin.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Finalement, on peut dire que le meilleur moyen d'éviter les fraudes et les erreurs, c'est l'information.
Voilà,
c'est
exactement.
Ce que vous êtes en train de faire.
Et c'est la relation de confiance avec la locataire dès la base, en fait.
Oui, complètement. Oui, monsieur Afraoui, vous
voulez dire. C'est exactement ça.
C'est ça. Merci infiniment. de nous avoir reçus pour cette mise au point. Je trouve personnellement que c'était très très instructif. Hein. J'ai appris moi-même beaucoup de choses et j'espère que nos auditrices et auditeurs auront le même sentiment. Juste un mot avant de nous quitter, Madame Kissane.
Moi, je voudrais simplement revenir sur l'intérêt effectivement pour nos allocataires, nous dire au plus vite dès lors qu'il y a un changement de situation d'être effectivement très réactif pour nous informer au plus vite. Et puis je voudrais en profiter aussi pour remercier toutes les équipes de la CAF du Val d'Oise qui sont très engagées pour à la fois payer nos allocataires, certes, les accompagner et puis aussi s'engager également sur le juste droit. Donc bravo aux équipes de la CAF.
Merci infiniment et moi je vous remercie Madame Christelle Kissane, Monsieur Nicolas Navarro, Monsieur Rachid Afraoui, Madame Layal Nneme. Merci pour votre accueil et votre disponibilité tout au long de cet échange et puis également d'avoir répondu à nos questions avec pédagogie et clarté. Je trouve que c'était important. Merci infiniment.
Merci
à vous. Merci à vous.
Merci. À bientôt. Merci à toutes et à tous de votre fidélité sur notre antenne IDFM Radio. Merci Francky d'avoir été à mes côtés pour cette interview. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre Territoire a du talent.